Donc, de ces deux alliances ou dispositions, l'une s'incarne dans une série d'écrits, les écritures juives, qu'il appellera Palaya et Graphai, les écritures anciennes, et l'autre désigne avant tout une interprétation nouvelle centrée sur la personne de Jésus. On lit l'Ancien Testament, il est ministère de la lettre, dit Paul, gravé sur des tables de pierre, tandis qu'on devient, Nouveau Testament, ministère de l'Esprit, gravé sur les tables de chair de nos cœurs, dit-il. Donc d'un côté, il y a une sorte de pétrification, et donc d'extériorité, et puis de l'autre côté, il y a quelque chose de beaucoup plus intérieur, hein, qui est de l'ordre de ce qui est vu, et puis de l'organe de la vision, on pourrait dire. Et d'ailleurs, Paul le dira ensuite dans la lettre aux Romains, qui est postérieure, où il parlera de la loi ancienne qui est gravée sur les tables de pierre, qui est extérieure, et de la loi nouvelle qui est gravée sur les tables de nos cœurs. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça aussi d'important? Ça veut dire que jusqu'à présent, les prophètes, c'était un peu des rappels à la loi, comme on dirait en sens un tribunal d'instance ou je ne sais pas quoi. Donc c'est un rappel à la loi. C'est-à-dire, les prophètes, leur mission, c'est de ramener à Moïse, à l'enseignement de Moïse, en disant, vous n'avez pas suivi l'enseignement de l'apôtre, du prophète, etc. Donc ça, c'est rappel à la loi. Tous les écrits de l'Ancien Testament, dans leur succession, sont des renvois à l'événement originel. La création, le don de la loi à Moïse, etc. Donc tout ramène à l'origine. Donc en quelque sorte, tous les écrits sont des écrits de commentateurs, si vous voulez. Et là, c'est là que Paul soudain a pris conscience que Jésus n'est pas le énième commentateur de la loi qui renverrait à Moïse, mais qu'il est celui dont Moïse parlait, donc il est en fait le véritable centre des Écritures, voyez. Et ça, c'est complètement un renversement de perspective. Autrement dit, c'est pas les nouveaux écrits qui sont au service de la Torah, mais c'est la Torah qui est en fait au service du Christ. Parce qu'elle joue un rôle pédagogique, et c'est après quand saint Paul parlera, vous savez, de la pédagogie divine, en disant que jusqu'au Christ, en fait, l'alliance était comme le pédagogue qui forme l'enfant, et que après on passe à l'âge adulte. Donc c'est une alors vous voyez bien le renversement que ça de tous les écrits vétérotestamentaires, tous les écrits des rabbis du temps de Jésus, c'était des commentateurs de la Torah. Et soudain, Jésus fait comprendre à ses disciples qu'il n'est pas le commentateur de la Torah, mais il est celui dont la Torah parlait. Et qu'il est le centre des Écritures, et qu'elles sont à son service, et pas lui au service des Écritures. D'ailleurs, saint Marc le fait très bien comprendre au début de son évangile. Saint Jérôme a beau dire que c'est écrit n'importe comment, n'empêche que c'est quand même bien dit, parce que au début de saint Marc, on souligne que les auditeurs du premier discours de Jésus dans la synagogue disaient qu'ils étaient impressionnés parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler avec autant d'autorité. C'est normal, les autres sont tous des commentateurs, donc ils s'abritent derrière les autorités. Et vous savez comment font, même d'ailleurs des juristes, enfin je sais pas, on cite toujours tel arrêt ou telle jurisprudence, ou, bon, etc. Et donc on s'abrite toujours derrière une autorité. Et là, voilà soudain quelqu'un qui va dire « moi » et qui va mettre les Écritures en rapport avec lui. Quand il repose le rouleau en disant « c'est aujourd'hui que ces Écritures s'accomplissent ». Vous voyez, en moi. Et ça, aucun rabbin de l'époque n'aurait osé le dire. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'ils vont le faire condamner, hein, comme blasphémateur. En fait, il faut les comprendre. Hein. Et d'ailleurs, s'ils n'avaient pas réagi comme ça, c'est qu'ils n'auraient rien. Enfin, c'est qu'ils auraient. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'ils auraient été trop. Ils auraient été comme des purs sadducéens, c'est-à-dire ils s'en fichent, quoi. Mais là, ils ne s'en fichaient pas. Ils avaient raison de ne pas s'en ficher, en fait. Mais sauf qu'ils n'ont pas perçu la nouveauté, justement. Ils n'ont pas perçu que c'était. Ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui gênait, mais ils n'ont pas perçu que c'était la vérité. Alors, donc il faudra attendre la fin du deuxième siècle pour que l'expression de Kainé Diateke désigne aussi le corpus des écrits chrétiens considérés comme inspirés. Hein, au début, ça désigne simplement une manière d'être. Et il faudra attendre la fin du deuxième siècle pour que ça désigne le Nouveau Testament, ça désigne la deuxième partie de la Bible, la partie proprement chrétienne. Et c'est Clément d'Alexandrie, donc en 200 à peu près, qui parlera de Palaia kai kainé diateke, donc d'une vieille et d'une nouvelle disposition ou alliance. Donc d'un ancien et d'un nouveau testament. Et d'ailleurs, c'est Tertullien, à peu près à la même époque, qui parlera de Vetus et Novum Testamentum. Donc l'expression nouveau testament, nouvelle alliance, est donc un peu ambivalente. Au sens large, elle signifie l'ère nouvelle de l'Église. Au sens étroit, elle désigne les écrits chrétiens qui jouissent de l'inspiration divine et qui sont équiparés aux écritures juives, dont on reconnaît bien sûr aussi l'inspiration. Donc voyez le passage du judaïsme au christianisme, c'est par la prise de conscience que le Christ est au centre, et que du coup ce qui va parler de lui va devenir à égalité avec la parole de Dieu jusqu'alors, reconnu comme inspiré. Et comme je vous disais l'autre fois, tout était centré sur la Torah. Désormais, la Torah se décentre d'elle-même pour se centrer sur le Christ. Alors, grand D, le canon de la Bible chrétienne. Alors, petit A, la nécessité d'authentifier les écrits au sujet du Christ. Donc, beaucoup, hein, comme dit Saint-Luc, ont entrepris d'écrire des choses, mais justement, il va falloir faire un tri dans tout ce qui va circuler. Et d'autant plus qu'on s'éloigne de plus en plus du centre. Quand on est au début, plus ou moins au centre, on ne peut pas dire trop de bêtises parce qu'on peut se faire, rappeler à l'ordre par... par quelqu'un qui habite dans le village d'à côté. Et qui, mais au fur et à mesure que le christianisme se répand, il se répand assez vite, eh bien, on n'aura plus cette facilité de pouvoir contrôler, enfin, vous voyez, voilà. Donc, il va falloir que le christianisme précise cet axe normatif. Et en même temps, la disparition progressive des témoins oculaires donne plus d'importance aux écrits. On ne peut plus compter simplement sur, par exemple, que Philippe passe, l'apôtre Philippe qui a évangélisé l'Asie mineure. Donc l'apôtre Philippe passe et puis disent, bah non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Bah non, parce qu'il n'est plus là. Donc, il n'y a plus que des écrits, mais les écrits ne parlent pas, si j'ose dire. Hein, ils peuvent pas se... Et donc, il va falloir que ces écrits soient authentifiés. Alors donc, ces écrits se multiplient, reflétant aussi d'ailleurs des traditions locales, ainsi que l'interprétation qui leur est donnée. Alors, les traditions locales, par exemple, dans l'histoire du paralytique qu'on descend à travers la terrasse. On sait un peu comment sont construites les maisons dans... Oui, voilà. En fait, c'est de la brique crue ou cuite. Et puis, il y a une sorte des entrelacs de branchages qui forment la terrasse. Et puis, on met de la, pourquoi, du plâtre ou je ne sais quoi pour en faire du sol, ouais, de la glaive. Hein. Donc on pouvait imaginer qu'en grattant et en écartant, hop, on puisse faire passer, on fait un trou dans le mur.
C'était pas la charpente de la cathédrale de Chartres.
Le trou dans le mur, vous savez, c'est comme l'histoire du voleur là, qui fait le trou dans le mur dans l'évangile, ou encore dans je ne sais plus quel prophète. Si c'est toujours Ézéchiel là qui fait des mimes pour annoncer les choses et donc il fait un trou dans le mur, mais c'est que les murs sont en briques crues ou en torchis ou en truc de genre. Mais par exemple Saint-Luc qui va s'adresser à des Saint-Luc est grec, qui va s'adresser à un public pagano-chrétien, lui il va dire on défait les tuiles, vous voyez, parce que si on disait on écarte les branchages dans les zones méditerranéennes où tout est recouvert de tuiles, ça ferait étrange, ils ne comprendraient pas. Et donc, il transpose l'histoire en disant on écarte les tuiles. Donc, vous voyez, il y a des traditions locales qui vont un petit peu diversifier le récit. Et par ailleurs, La secondarité propre au christianisme impose de prendre en considération les écrits juifs. Donc, du coup, il va falloir aussi les juger, ces écrits juifs. Donc, il faut se rappeler qu'au moment où affleurent ces questions donc d'authentifier les écrits normatifs pour la foi chrétienne, le canon juif n'est pas encore totalement fixé. Et selon les communautés locales, donc les églises, des écrits chrétiens et juifs sont plus ou moins bien acceptés. S'y mêlent en effet déjà des écrits tendancieux, cherchant d'ailleurs à s'imposer par le recours systématique au procédé de la pseudépigraphie. Donc ce sont les apocryphes, par exemple le proto-évangile de Jacques, les évangiles de Thomas et de Pierre, la lettre des apôtres, etc. Et à ces écrits apocryphes chrétiens s'ajoutent aussi des apocryphes juifs qui charrient toutes sortes de doctrines et qui, par leur syncrétisme, menacent aussi l'enseignement authentique des apôtres et de leurs premiers successeurs, les évêques, l'enseignement qui est tenu pour la règle de foi qui est enseignée à ceux qui reçoivent le baptême. Et du coup, la réaction ne se fait pas attendre. Dès la fin du 1er siècle, les interprétations hétérodoxes sont combattues dans des écrits brefs, dont le prestige est rehaussé, lui aussi, par le recours à la pseudépigraphie. C'est ainsi que les détracteurs de la sainteté du mariage sont qualifiés d'esprits trompeurs, aux doctrines diaboliques, de menteurs hypocrites. Ça, c'est dans 1 Timothée 4, 1-2. Le même auteur qualifie les doctrines gnostiques de fables profanes et de racontards de vieilles femmes. C'est amusant, hein ? Ça, c'est 1 Timothée 4, 7. Et il met en garde contre ceux pour qui la piété est source de profit. 1 Timothée 6, 4, 5. Et l'auteur de la lettre à Tite s'en prend aux juifs qui cherchent le profit, c'est étonnant, et qui se montrent vains discoureurs. Voilà, qui parlent pour ne rien dire, autrement dit. Donc Tite 1, 10, 11. Alors après, étonnez-vous que les chrétiens se soient fait jeter de la synagogue, un langage de Jean, ou encore ceux qui font profession de connaître Dieu mais qui le renient. Tite 1, 16. Et l'auteur de la deuxième lettre à Timothée stigmatise les discours creux et impies, 2 Timothée 2, 16, des pseudo-prophètes, ça par exemple 1 Jean 4, 1, des pseudo-docteurs, 2 Pierre 2, 1, qui sont l'Antichrist. L'Antichrist, on le voit apparaître en 1 Jean 2, 18, 2, 4, 3, 2 Jean 7. Donc on a plusieurs choses. Et même Les mêmes diatribes sont dans la lettre attribuée à Jude contre les impies, incrédules et blasphémateurs, dont il dit, ah, moi j'aime bien ce passage, des nuées sans eau que les vents emportent, arbres de fin de saison, sans fruits, deux fois morts, déracinés, houle sauvage de la mer écumant sa propre honte, astres errants auxquels les ténèbres épaisses sont gardées pour l'éternité. Ah, ça. C'est, vous voyez, arbre de fin de saison, sans fruits, deux fois mort. Oui, c'est ça. Nuée sans eau que les vents emportent. Et, alors, vous savez, en plus, pour des gens qui habitent le Proche-Orient, des nuées sans eau, c'est frustrant parce qu'on aimerait bien que ça tombe un peu. Hein. Et alors. À ces falsificateurs de la parole de Dieu, 2 Corinthiens 4, 2, s'ajoutent ceux qui, comme Marcion, veulent rejeter l'Ancien Testament en bloc et s'affranchir de l'enracinement juif du christianisme, donc de nier cette secondarité. Et le recours à la pseudépigraphie n'est pas suffisant, puisque les pseudo-apôtres y recourent aussi. Hein Alors, les évêques vont se. Enfin, les chefs de communauté, disons les épiscopes, c'est le terme qui est utilisé à l'époque, épiscopoi, vont se voir contraints de ne plus juger de l'authenticité d'un écrit sur sa seule forme ou sa seule signature, mais de confronter son contenu avec la règle de foi, qui est heureusement qu'on a eu le baptême dès l'origine, hein, parce que grâce au baptême, on a eu. Le résumé kérigmatique de la foi, et finalement c'est à partir de ce résumé kérigmatique que on va juger de la proximité ou de l'éloignement de tel ou tel écrit qui se présente comme un commentaire de la foi chrétienne ou un récit de la vie de Jésus. Donc un certain nombre d'écrits vont être reconnus comme normatifs parmi d'autres qui sont reçus, mais sans jouir de la même autorité. Et c'est comme ça que progressivement va naître le canon des Écritures. Alors, je regarde l'heure. Donc, ça va. Alors, petit b, la détermination du canon. Un texte daté par les uns. De la deuxième moitié du deuxième siècle, pour d'autres en partie des troisième ou quatrième siècles, fait état des écrits reçus dans les communautés chrétiennes d'Occident. C'est le fameux canon de Muratori. Alors, Muratori, c'était un bibliothécaire de la bibliothèque apostolique de Milan, vous savez, la grande bibliothèque de Milan, ambrosienne, pardon, de Milan. Au XVIIIe siècle, et il a exhumé ce texte parmi des manuscrits qui devaient y être. Alors, ce canon de Muratori comprend les quatre évangiles, les quatre évangiles, comme disent les enfants, les actes des apôtres, les lettres de saint Paul, sauf la lettre aux Hébreux, dont le cardinal Vanois nous disait à l'Institut biblique que l'épître de saint Paul aux Hébreux n'est ni une épître ni de saint Paul ni adressée aux Hébreux. Oui, c'est une sorte de sermon en fait dont Vanois, qui a passé sa vie sur ce texte il y a 94 ans à peu près actuellement, et pense que ça serait de Barnabé. Vous voyez, Barnabé, le super apôtre là dont Paul au départ ressemble à une sorte de petit de petits secrétaires. Donc Barnabé serait, hein, d'autres pensent que ça pourrait être Apollos, celui qui est passé à Corinthe avant Paul. En fait, on n'en sait rien, mais ça peut être encore un autre qu'on ne connaît pas.
Et on est sûr que ce n'est pas de saint Paul, c'est
ça? Oui, alors, et déjà on avait des doutes, vous voyez, au 1er siècle, au 2e siècle. Le canon de Muratori ne contient pas l'épître aux Hébreux. Et vous remarquez que dans nos Bibles, qui sont comme tous les écrits antiques, comme le Coran par exemple, qui sont toutes tous les textes sont écrits en, par taille décroissante, ah, oui, successive,
comme les sourates.
Hein. Et ben, nous, si vous regardez les textes de saint Paul, ils sont aussi de taille décroissante. On commence par la plus longue, Romains, et on finit par la plus courte, Philémon, il n'y a plus qu'une page. Et Hébreux est après, alors que Hébreux est quand même bien plus long. Hein. Et donc, ce qui veut dire que déjà, au IIe siècle, on mettait en doute la paternité paulinienne de l'Épître aux Hébreux. Et là, dans le canon de Muratori, elle ne figure même pas dans le canon. Donc, ça veut dire qu'elle n'était pas connue ou pas reçue. Alors, qu'est-ce qu'on trouve encore? On trouve l'Apocalypse de saint Jean, mais aussi une Apocalypse de saint Pierre. Les deux premières lettres de saint Jean, et on déclare que le pasteur d'Hermas, frère d'un pape du IIe siècle, hein, de Pie, ne peut être lu au culte, mais peut faire l'objet d'une lecture privée. Donc ça veut dire, on se dit, ça ne doit pas être un écrit inspiré, mais c'est un écrit pieux, édifiant, qu'on peut lire. Alors vous savez, le pasteur, ça se présente comme une série de visions avec une vieille femme qui est l'église, qui rajeunit, une tour. Enfin, c'est toute une série de visions. Et en fait, la grande idée, c'est un but moral. Hein, c'est l'idée qu'il y a un ange de la miséricorde et de la pénitence. Et que, effectivement, c'est dur d'être chrétien, mais il ne faut pas se désespérer. Dieu est miséricordieux et il nous envoie un ange de la pénitence qui nous aide à nous convertir et à recevoir son pardon. Donc, c'est l'idée. Alors, saint Eusèbe de Césarée mentionne une liste un peu différente et range les lettres de Jacques et de Jude, la deuxième lettre de Pierre et les petites lettres de Jean parmi les écrits controversés. Voyez. Donc, Jacques, Jude, la deuxième de Pierre, et la deuxième de Pierre et la lettre de Jude, c'est presque pareil. Enfin, c'est à la virgule près. Et puis les deuxièmes et troisièmes de Jean qui sont un peu bizarres dans leur style par rapport à la première et à l'Apocalypse et à l'Évangile. Donc, parmi les écrits controversés, vous avez ça dans le troisième livre de l'histoire ecclésiastique, chapitre 25. Et en fait, on va sortir de la. Donc, vous voyez, il y a des collections qui circulent. Alors, dans telle série d'églises, on dira, on reçoit telle lettre. Donc, c'est l'époque où circulent aussi les literae communionis entre épiscopoi. Donc, les évêques, là, les chefs des communautés, s'envoient des lettres en se disant, chez nous, on lit ça, ça, ça et ça, et chez vous, comment c'est comme on bouge beaucoup, et comme les premiers chrétiens, c'était souvent des gens qui bougeaient beaucoup, des commerçants, etc. Donc, ils vont dans la ville d'à côté, ils s'aperçoivent qu'au culte, on n'entend pas tout à fait la même chose, donc ils discutent avec les... Donc, finalement, on finit par se mettre d'accord, et bientôt, il faudra attendre que l'Église sorte des catacombes pour que les évêques, enfin, puissent se voir. Notamment en 325 avec le grand concile de Nicée. Mais c'est en 367, donc à l'époque où l'Empire est devenu chrétien, que saint Athanase d'Alexandrie, le patriarche, dans sa lettre pascale adressée à ses évêques suffragants, et il en avait des centaines, donne un nouveau testament semblable au nôtre, exactement semblable au nôtre. Et cite l'Ancien Testament dans sa forme canonique juive, Esther exceptée. Hein. Et il ajoute, à côté de ces livres, il y en a encore d'autres qui, à la vérité, ne sont pas canoniques, mais dont les pères ont jugé qu'ils pouvaient servir à la piété de ceux d'entre les néophytes qui les liraient. La sagesse de Salomon, donc ce que nous on appelle le livre de la sagesse, Sirach, donc Ben Sirach le Sac,
Ben Sirach le Sac,
et puis vous savez celui dont le petit-fils dit que traduire un livre c'est vraiment une chose pénible et qu'il souhaite ça à personne. Esther, Judith, Tobie, la Didaquée, la fameuse Didaquée qu'on a retrouvée des siècles après, ou enseignement des apôtres, et le pasteur, donc le pasteur d'Hermas.
Qu'est-ce qui définit ça? C'est comme valable.
C'est Athanase.
Athanase.
Et donc, vous voyez que il prend l'Ancien Testament dans la forme canonique juive, donc excluant ce que Luther appellera à la suite des Juifs les écrits deutérocanoniques, c'est-à-dire de moindre valeur canonique, comme justement Sagesse, Sirach, Esther, Judith, etc. Tout ça parce que c'est écrit en grec. Et au moment où, oui, au moment où les Juifs forment leur canon après la destruction de Jérusalem, et donc ils vont renforcer, menacés par la diaspora, n'ayant plus de centre, ils vont renforcer leur, comment dire, leur lien interne. Et le lien interne repasse par l'expulsion de l'hellénisme pour se replier sur l'hébreu. Voyez, donc c'est vraiment l'idée. Puisqu'on n'est plus tranquille chez nous, on n'existe plus que par les liens du sang et les liens de la langue. Donc du coup, on va expurger de nos écritures tout ce qui est un peu une sorte de concession, dirait-on, à l'hellénisme. Donc tout ce qui est écrit en grec. Donc ce qu'on appellera deutérocanonique, du coup. Donc Sagesse, Sirach, Esther, Judith, Tobie, plus des textes chrétiens, donc vous voyez, qui sont considérés comme de moindre valeur canonique, comme la Didaquée, l'enseignement des apôtres, donc, et le pasteur. Et ça, qui finalement ne seront plus reconnus comme des textes inspirés. Maintenant, on les lit comme on lit les premiers pères de l'Église. Et Athanase continue, il dit « Mais seuls les premiers, mes frères, appartiennent au canon, tandis que les autres sont seulement autorisés pour la lecture privée. » Donc, il y a les choses qu'on lit dans le culte, et puis il y a les choses qu'on lit dans la lecture privée. Alors, vous n'imaginez pas que chacun avait son petit pasteur d'Hermas qui lisait à la lueur de sa lampe à huile. Non, ça se lisait après dans la salle paroissiale, si j'ose dire, mais pas dans le cadre du culte.